le journal et l'équipe Bellamondo.
L'Assemblée provinciale du Kassai occidental et le gouverneur Trésor Kapu Kongoï d'accord de travailler pour l'intérêt de la province. Engagement pris au cours de la rencontre initiée hier à Kananga par le ministre d'État Denis Kaloumé à la demande expresse du président Joseph Kabila. Le ciment gris de la RDC ne pourra pas pour l'instant traverser la frontière centrafricaine. Le gouvernement veut d'abord satisfaire la demande locale. Réponse du ministre congolais du Commerce extérieur à son homologue de Bangui venu parler importation de ses produits. En province orientale, l'AFEC dénonce la perception des taxes parallèles par certains services de l'État sont particulièrement visés les opérateurs économiques expatriés. À toutes et à tous, bonjour. Ouvrons ce journal par les Kassai occidentales. Les législatives et l'exécutif s'engagent à travailler ensemble pour le développement de la province. Au cours de la rencontre initiée hier à la résidence officielle du gouverneur au nom du chef de l'État par le ministre d'État en charge de l'Intérieur, Omer Mijimbu Chakalaou, le président de l'Assemblée provinciale, et le gouverneur Trésor Kapuku Ngoï ont fumé les calumets de la paix en présence des sénateurs, des ministres et des députés. Pour sa part, le ministre d'État Denis Kaloumé précise la façon dont le gouvernement central va aider au renforcement de l'engagement pris par ces deux institutions de la province en vue de réussir l'étape délicate de la décentralisation. Denis Kaloumé Numbi est au micro de André Kambala Mujanaï.
Nous allons faire en sorte que les lois de la République puissent encadrer leurs activités et faire en sorte de les aider, de les assister pour que chacun puisse bien connaître ses attributions et travailler conformément aux lois de la République et aux attributions. Tout simplement pour dire que nous sommes dans un tournant qui est très délicat, c'est la décentralisation. Nous devons donc tous nous mobiliser pour que cette décentralisation réussisse, sinon ça sera la désintégration du pays. Chacun doit se mettre en tête qu'il y a des lois qui vont guider l'ensemble de ses activités et que personne ne puisse se mettre au-dessus de ces lois et que chacun puisse se plier à ces lois. C'est la meilleure façon de franchir ce cap d'état de droit que nous souhaitons tous.
Denis Kaloumé Numbi, ministre d'État en charge de l'Intérieur. Restons à Kananga avec cette déclaration de Joseph Kabila. Il faut restructurer la gestion de la SNCC, la Société Nationale des Chemins de Fer du Congo, pour rendre cette entreprise plus efficace et éviter qu'une autre catastrophe ferroviaire telle que celle qui endeuillait les populations de Kakenge au Kassai occidental ne se reproduise. C'est ce qu'a affirmé le président de la République hier devant la presse du Kassai occidental. Le chef de l'État Kabila, qui est à son quatrième jour à Kananga, a évoqué plusieurs problèmes sociaux en rapport avec les quotidiens du Kassai occidental. Parmi les autres dossiers évoqués au cours de ces points de presse, il y a par exemple l'abrogation du sauf-conduit qui empêche les étrangers d'investir dans cette province, les lancements prochains des travaux de construction du barrage hydroélectrique de Katende avec la première phase du financement déjà acquise. Le gouvernement congolais s'emploie d'abord à satisfaire les demandes locales avant d'envisager une quelconque exportation du ciment gris. C'est la réponse donnée par le ministre congolais du Commerce extérieur à sa collègue centrafricaine chargée du même secteur, venue à Kinshasa négocier l'importation de ses produits vers son pays. La rencontre entre Denis Mbuyu de la RDC et Rosalie Kubugere de la RCA a eu lieu hier au cabinet du ministre congolais en charge du Commerce extérieur. Vous savez que suite à la rareté et à la majoration du prix du ciment gris constaté sur les marchés congolais, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures parmi lesquelles la non-importation de cette denrée rare vers d'autres pays, du moins pour l'instant. Le ministre du Commerce extérieur de la RDC est au micro de Jeff Ngoy.
La ministre du Commerce extérieur de l'industrie de la République centrafricaine m'a posé le problème d'importation des ciments envoyés par son gouvernement parce que dans leur pays, ils ont des problèmes de ciment. Alors, il est venu prospecter, voir dans quelle mesure nous pouvons contribuer à la résolution des problèmes d'approvisionnement dans son pays. Il faut noter que dans le passé, Bangui a toujours importé des ciments de la République démocratique du Congo. Malheureusement, lorsqu'elle est arrivée, elle a trouvé une situation difficile chez nous parce que nous avons certaines tensions sur le marché, c'est-à-dire la production locale ne parvient pas à satisfaire la consommation locale. Mais le gouvernement s'y emploie de trouver une solution au problème d'approvisionnement, d'abord pour la consommation locale. Nous allons transmettre les dossiers au gouvernement qui prendra la décision que lui semblera n'est-ce pas convenir, tenant compte des intérêts des Congolais.
Denis Mbuyu, ministre congolais du Commerce extérieur. En province orientale, la Fédération des entreprises du Congo tire la sonnette d'alarme sur les tracasseries dont sont victimes les opérateurs économiques, particulièrement des expatriés, auprès de certains services de l'État. Au cours d'une réunion tenue jeudi avec les opérateurs économiques de Kisangani, le président de la FEC province orientale, Raymond Mokeni, a désigné nommément les services tels que la DGRAD, l'ANR, l'INSS, la DGM, l'environnement ainsi que les services de la quarantaine et d'hygiène. Ces services se livreraient, selon lui, à la perception parallèle des taxes. André Hitting.
Le président de la Fédération des entreprises du Congo province orientale se dit préoccupé par ce qu'il appelle le harcèlement des opérateurs économiques par certains services de l'État. Ces derniers, affirme-t-il, se livrent à la perception parallèle des taxes. Raymond Mokeni et Kopikani.
Nous avons noté avec beaucoup de regrets que l'environnement, le service de quarantaine et le service d'hygiène, en plus de services de DGM, l'ANR et DGRAD, font le même travail à l'ONATRA. Et alors, l'INS ne veut plus entendre parler des paiements qu'on a effectués auprès de l'INSS pendant la rébellion. Donc l'opérateur économique doit payer doublement.
Contacté, la plupart des responsables de ces services cités disent ne pas être au courant de ces accusations. Pour eux, si cela s'avérait vrai, les agents incriminés seront sanctionnés conformément à la loi. Néanmoins, le directeur provincial de l'INSS dit avoir appliqué la loi et rejette l'idée d'une tracasserie quelconque. Anissé Tchovu Mwamba, directeur provincial.
D'abord, je m'inscris en faux par rapport à cette déclaration, mais il y a quelques-uns qui sont des employeurs récalcitrants, qui n'ont pas répondu à toutes les invitations de l'INSS et qui ne respectent pas les dispositions légales en matière de cotisation des paiements de déclaration, qui font l'objet en ce moment d'un recouvrement forcé.
Le président provincial de la FEC, quant à lui, promet de saisir le gouvernement aussi bien provincial que central pour mettre fin à cette confusion. Kisangani, André Kitenge, Radio Okapi.
Province orientale encore, à Bounia, magistrats et juges ont poursuivi leur mouvement d'arrêt de travail hier vendredi. Comme jeudi, ils ne se sont pas présentés au lieu de service. Conséquence, aucune audience n'a été organisée au tribunal ni un dossier instruit au parquet des grandes instances d'Ituri. Contacté, le procureur de la République près les tribunaux de grande instance a indiqué que les magistrats n'ont pas répondu favorablement à son appel d'hier vendredi, les invitant à reprendre le travail. Magistrats et juges de Bounia avaient arrêté de travailler depuis jeudi. Selon eux, c'est pour contester la libération en territoire des Haro par le gouverneur de la province orientale des 66 personnes condamnées en juin dernier. L'État congolais appelé à payer les factures de la Société des transports urbains du Congo, STUC, conformément à l'accord de mai 2005 créant cette société. Accord signé entre le gouvernement et Tata Motors, c'est l'une des recommandations issues de la table ronde STUC-gouvernement qui a examiné la situation qui traverse cette société des transports. La clôture de cette table ronde est intervenue hier vendredi. Mimi Ngumba Mulongo revient sur les conclusions de ces assises.
Ces travaux qui ont réuni les ministères de transport, du portefeuille, de l'intérieur et l'hôtel de ville a, parmi ces résolutions, levé l'option d'accorder à STUC un tarif optimal à hauteur de 312 CDF pour lui permettre de couvrir toutes les charges inhérentes à l'exploitation. Les participants se sont également mis d'accord pour un allègement fiscal sur le produit pétrolier. Il faut pour ce faire envisager une possibilité pour la STUC de s'approvisionner directement auprès des fournisseurs en la matière. Parmi les autres difficultés évoquées par la STUC, il y a la faiblesse du tarif, le transport gratuit des policiers et militaires sans compensation financière de l'État. Le ministère de Transport, pouvoir régulateur, s'est engagé à soutenir l'action de la STUC. Il a en effet décidé la création d'une commission mixte chargée de finaliser ce dossier. Il a été convenu également l'aménagement des axes routiers avec la réhabilitation et l'entretien périodique des grands axes et la construction d'autres routes.
Au Sud-Kivu, parlons de la poursuite du procès de Serge Maéché, journaliste et secrétaire de rédaction à Radio Okapi, abattu le 13 juillet dernier par des hommes en armes. À Bukavu, la plaidoirie a débuté hier vendredi au tribunal militaire de garnison. Les avocats de la victime ont présenté leurs conclusions et le ministère public a fait suivre son réquisitoire devant les tribunaux. L'officier du ministère public a proposé l'application de la peine de mort à l'endroit des auteurs matériels et intellectuels de l'assassinat. Les points avec Jean Kassami.
Le sang de Serge Maéché crie vengeance. C'est en cette heure que l'officier du ministère public a introduit son réquisitoire. Il a demandé au tribunal d'appliquer la peine capitale aux assassins et à leurs commanditaires lors du jugement. La partie civile, pour sa part, a estimé qu'il existe encore des zones d'ombre qui méritent d'être percées avant le jugement. par exemple la certitude, la sincérité et la véracité des aveux déposés par les deux présumés auteurs. Au cours de leur plaidoirie, les avocats de la partie civile ont tenu l'État congolais civilement responsable par le simple fait que l'arme utilisée appartenait à un militaire bien identifié au sein des FRDC mais qui demeure irrépérable. Ainsi, la partie civile exige que l'État congolais paye une somme équivalant à 1 million de dollars en francs congolais pour dommages et intérêts à la veuve ainsi qu'aux orphelins du défunt. Ces deux parties au procès sollicitent au tribunal de rendre sa décision en toute impartialité car la communauté nationale et internationale ont les yeux rivés sur l'aboutissement équitable de ces procès. De Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Le procès a été suspendu dans la soirée pour reprendre le lundi. En rapport avec ces procès, l'Union européenne invite les autorités congolaises à faire toute la lumière sur l'assassinat de Serge Maheshe et de Pascal Kabungulu. Dans une déclaration officielle, la présidence de l'Union européenne insiste sur l'importance de lutter contre l'impunité en RDC. Déclaration qu'un groupe des ONG a remis jeudi au président du tribunal de Bukavu qui instruit les procès de l'assassinat de Serge Maheshe. Pascal Bostan, membre de l'Organisation internationale des droits de l'homme, Protection Line, souligne ici l'importance de cette déclaration. Elle est au micro des Dieudonné Bagalwa.
Cette déclaration est très importante politiquement puisqu'il s'agit d'une déclaration conjointe de 27 États membres de l'Union européenne concernant la lutte contre l'impunité en République démocratique du Congo et en particulier le danger que représente pour cette lutte contre l'impunité les assassinats de défenseurs des droits humains et de journalistes. Évidemment, l'exemple du procès de Pascal Kabungulu n'est pas un très bon exemple. Donc, je pense que tout le monde et la population de Bukavu, je pense, est dans la même optique, attend de voir vraiment ici quelque chose d'une procédure différente et une procédure qui va véritablement aboutir et aboutir dans des conditions de respect d'un procès équitable.
Province de l'Équateur, remise jeudi en Bandaka du matériel de transport aux autorités sanitaires de cette province par la délégation mixte OMS, ministère de la Santé. Il s'agit d'un bateau de 30 canots avec des moteurs hors bord et des 200 vélos. Selon le directeur Jean-Baptiste, le docteur Jean-Baptiste Rungu de l'OMS, un autre bateau et 1000 pirogues seront remis prochainement aux aires de santé de la Chuapa. Le vice-ministre de la Santé, Ferdinand Toa Osiamba, a saisi cette occasion pour mettre en garde les médecins et les vaccinateurs qui n'ont pas bien fait leur travail lors des précédentes campagnes de vaccination. On l'écoute au micro de Ghislaine Nentobo.
Je fustige le comportement des responsables qui ne participent pas à la mobilisation de la population en faveur de la vaccination. Je fustige le comportement criminel du personnel de santé qui, au lieu de vacciner réellement les enfants, présente de faux rapports aux autorités et gère mal l'argent mis pourtant à leur disposition pour la réussite des activités de vaccination. Aujourd'hui, la vérité éclate en plein jour. Tous les mensonges sont démasqués car l'épidémie de poliovirus sauvage qui est présente dans cette province montre très clairement le manque de sérieux avec lequel les activités ont été menées dans votre province. Ce matériel, je l'espère, permettra de désenclaver la province et le personnel de santé, d'aller le plus loin possible pour vacciner chaque enfant cible.
Rappelons que parmi les provinces, l'Équateur bat les records en nombre de nouveaux cas de poliovirus sauvage enregistrés au cours des derniers mois chez les enfants de moins de 15 ans. 19 nouveaux cas de polio ont été enregistrés dans cette province à la fin du premier semestre de cette année. Au Katanga, après 5 ans d'interruption, l'eau coule à nouveau à l'hôpital Sendwe. C'est la coopération technique belge qui a financé les travaux de réhabilitation du château d'eau de cet hôpital général de référence. Ce château d'eau d'une capacité de 100 mètres cubes par seconde est à mesure d'alimenter totalement cette infrastructure hospitalière en eau potable. Coût total des travaux, 12 000 euros. Les points avec Madeleine Waila.
L'eau à l'hôpital Sendwe coule à nouveau et ça se voit dès l'entrée de l'hôpital. On peut voir les techniciens de surface chasser la poussière des fenêtres et des corridors avec des puissants jets d'eau. Une petite touffe d'herbe pousse autour de chaque robinet. Preuve, le précieux liquide coule à nouveau. Du côté maternité, c'est un ouf de soulagement. Les femmes qui ont accouché affirment qu'elles ne se réveillent plus à minuit pour surveiller une probable coulée d'eau. Médecins et infirmiers de la maternité ne cachent pas non plus leur joie. Et pour cause, leur section compte maintenant 4 robinets au lieu d'un seul précédemment. Même les croque-morts est content. L'eau coule également à la morgue. Plus question pour lui de commander un peu d'eau dans les parcelles avoisinantes pour faire son travail. Le médecin directeur de l'hôpital Sendoué est le plus satisfait. L'eau permet désormais à son infrastructure hospitalière de travailler dans les conditions hygiéniques optimales. Lubumbashi, Madene Waila, Radio Okapi.
Au Congo-Brazzaville, Jacques Joachim Yombi Opango, ancien président du Congo-Brazzaville et ancien premier ministre sous Pascal Lissouba, a regagné son pays hier soir après 10 ans passés en exil suite à la guerre de 1997. Jacques Joachim Yombi Opango a été accueilli à l'aéroport international de Mayamaya par les directeurs du cabinet du président Denis Sassou Nguesso et par les militants de son parti, les RDD, Rassemblement pour la démocratie et le développement.